Chapitre 2.
Par les esprits du bien, souffla Nathan, si je m'attendais à ça.
Blanc comme un linge, Bannon ravala une exclamation. À ses côtés, Lila serrait les poings. Devant les soldats de pierre, Nathan avait fait montre d'un intérêt d'historien. Attentif aux moindres détails, il avait étudié leur équipement, leurs armes et leurs expressions, le plus souvent jubilatoire à la perspective d'une écrasante victoire sur Ildakar. Érudit parmi les érudits, le sorcier connaissait bien entendu l'histoire du général Outros, chef d'une immense armée chargée de conquérir l'ancien monde pour l'empereur Kourgan. Une fois à Ildakar, pris dans une tempête d'événements, le vieil homme n'avait quasiment plus pensé aux soldats de pierre. Comme pétrifié, le haut capitaine Stuart fixait sombrement l'armée qui se mettait déjà en branle.
Après les émeutes, notre ville a bien assez de problèmes. Mes hommes continuent à combattre les incendies, à capturer les fauves et à empêcher les pillages, mais ça...
Toujours maîtresse d'elle-même, Nietzsche posa la question essentielle.
Pourquoi ces soldats se sont-ils réveillés? Surtout en ce moment précis. Ce n'est pas un hasard. Quand j'étais en vadrouille avec Amos, Jed et Brock, rappela Bannon, un soldat nommé Ulrich s'est réveillé. Le sort de pétrification s'est dissipé sans raison apparente. Ulrich nous a demandé de l'aide, mais ils l'ont jeté dans l'arène et Ivan l'a tué.
Non sans peine, ajouta Nietzsche,
parce que son corps était encore en pierre par endroits. Mais ton Ulrich n'était qu'un seul et unique fantassin. Là, ils sont déjà des dizaines de milliers à s'être réveillés.
Soudain très grave, Nathan se tourna vers Stuart.
Capitaine, à ta place, j'irai faire fermer et barricader les portes, puis je demanderai aux sorciers de lancer des sorts défensifs. Ildakar essuiera bientôt une tempête.
Revenant à la réalité, le haut capitaine partit au pas de course. Pendant le séjour de Nathan, la charmante Elsa, membre honorée du Douma, lui avait vanté l'inexpugnabilité de la cité. Après 15 siècles passés sous le linceul de l'éternité, le vieil homme doutait que ce soit encore d'actualité. Confiés dans leur isolement, les membres du Douma se montraient beaucoup trop sûrs d'eux. Tant qu'il était là, le linceul avait gardé la ville hors des flots normaux du temps, lui épargnant toute menace militaire ou magique. Le linceul détruit, Ildakar ne pouvait plus se cacher. Alors que la ville était revenue dans le monde, le sort de pétrification se dissipait. Ce sort, Nathan le savait, avait été pour l'essentiel lancé par Maxime, le faux chef rebelle en fuite. En guise d'ultime trahison, avait-il levé son sortilège? D'un coup de tête, Nathan rejeta sa crinière blanche derrière son épaule, puis il parla d'un ton qu'il voulait confiant et rassurant.
Nous allons devoir compter sur nos propres forces.
Après la destruction de la pyramide, aucune magie du sang ne serait assez puissante pour ramener le linceul.
Ils sont si nombreux,
s'écria Bannon.
Douce mère la mer, on dirait une armée de fourmis rouges sur le sentier de la guerre.
Des fourmis, souffla Lila. On pourrait les écrabouiller.
Une idée qui semblait la séduire. Morose, Nathan se tourna vers Nietzsche.
Eh bien, magicienne, on dirait que nous n'allons pas partir de si tôt.
Rayonnante dans une robe violette, Elsa déboula sur les créneaux.
Te voilà enfin, Nathan. Je voulais m'assurer que tu ne sauverais pas la ville seule maintenant que tu es de nouveau entier. Après ta démonstration face au guerrier Ixax, je suis sûr que tu écrabouilleras cette armée en un clin d'œil.
Merci de ta confiance, très chère, mais j'ai peur que ce soit un peu plus compliqué que ça.
Au creux de sa poitrine, Nathan sentait monter une chaleur qui n'avait rien à voir avec le cœur d'Ivan qui y battait fièrement. Les défenses d'Ildakar ne se limitaient pas aux murs d'enceinte, côté plaine. Du côté fleuve, les sorciers, dans un lointain passé, avaient surélevé le terrain. Du coup, sur ce flanc-là, la ville se dressait au bord d'un imposant précipice. Tout autour, elle était entourée de marécages d'autant plus infranchissables qu'ils étaient gardés par des monstres issus de l'imagination perverse des sorciers de chair. Le seul accès à la ville, c'était la plaine. 15 siècles plus tôt, le général Outros y avait fait déferler son armée avec l'espoir d'une rapide victoire.
« Nous sommes pris au piège !»
marmonna Bannon.
« Tu plaisantes, mon gars ?» fit Lila. « En ville, nous ne risquons rien. Ildakar n'est jamais tombé.
Et les esclaves en fuite réfugiés dans les collines? Sans parler des chasseurs, des bergers et des voyageurs qui sont là-dehors?
S'ils sont malins, dit Nathan, ils fileront sans demander leur reste. Je ne m'en fais pas trop pour eux. Pour nous, en revanche.
Sous l'œil du petit groupe, les soldats réveillés continuaient de se mettre en formation comme des pions sur un plateau de jeu. Dans un cliquetis d'armes et d'armures, les premiers rangs s'ébranlaient déjà.
« Selon les livres d'histoire, dit Nathan, Outros entraînait très bien ses hommes. Grâce à ce chef compétent et loyal, un vrai génie militaire en réalité, l'empereur Kourgan a conquis presque tout l'ancien monde. Même s'il était un grand dirigeant, Kourgan faisait surtout peur aux autres à cause d'Outros. »
Quelques centaines de soldats approchaient de la muraille. Mal réveillés, ces hommes ne réussiraient pas grand-chose, mais derrière eux, des centaines de milliers de guerriers sortaient de leur sommeil.
« Regardez, » dit Nathan. « Ils semblent désorientés. »«
Ils essaient de comprendre, »
acquiesça Nietzsche.
« Les premiers rangs sont des éclaireurs. Je parie que ces gens ne savent pas plus que nous ce qui leur arrive. On pourra peut-être tirer parti de leur confusion. »«
Je donnerais cher pour voir ce qu'ils font, »
fit Elsa une main en visière. Avec le soleil en face, il n'était pas facile de distinguer les détails. Sa cicatrice au torse continuant à l'élancer, Nathan invoqua son don. Battant dans sa poitrine, le cœur d'un sorcier faisait circuler son sang et renforçait son han. Levant les mains, le vieux sorcier tourna les paumes vers l'extérieur et appuya comme s'il essayait de pousser un mur invisible.
« L'air est transparent, mais en l'incurvant, je peux en faire une sorte de lentille géante. »
Une fenêtre immatérielle apparut devant l'ancien prophète. L'ajustant peu à peu, il rendit de plus en plus nettes les images considérablement agrandies qui semblaient désormais flotter dans l'air. Vus de près, les antiques guerriers à la peau blafarde paraissaient bien désorientés. Mais sans nul doute, ça ne durerait pas. Casqués et en cuirasse, ils brandissaient d'énormes épées, des fléaux d'armes et des lances. Grâce à la fenêtre magique de Nathan, on voyait nettement la flamme de Kourgan peinte sur les boucliers et sur les poitrines. Un frisson courut le long de la colonne vertébrale de Nathan. Au palais des prophètes, des siècles durant, il avait dévoré tous les ouvrages historiques à sa disposition. Mais ces soldats n'appartenaient plus au passé. Bien vivants, ils se préparaient à attaquer Ildakar. 5 siècles avant la naissance de l'ancien prophète, l'empereur Kourgan, un des plus puissants dirigeants de l'ancien monde, était surnommé Croc de Fer à cause de la dent artificielle qui lui donnait un air terrifiant. Ses succès militaires, il les devait au général Outros, son serviteur le plus loyal, à un détail près. Car le général, en secret, croyait-il, était tombé amoureux de l'impératrice Magel, l'épouse de son maître. Parti conquérir Ildakar, Outros n'était plus jamais revenu. À présent, Nathan savait pourquoi. Au pays, Kourgan s'était montré sous son vrai jour. Tyran capricieux, il n'avait pas réussi à gouverner les terres conquises par son général. Pire encore, ayant découvert la trahison de Magel, il avait, de sa main et en public, écorché la malheureuse puis livré son corps à une armée de fourmis rouges. Presque jusqu'à la fin, Magel avait clamé sa repentance, mais il n'en avait pas tenu compte. Devant tant de cruauté, le peuple, qui adorait son impératrice, avait renversé Croc de Fer. Après sa mort, le cadavre du tyran avait été traîné dans toutes les rues et son empire, immense mais fragile, s'était divisé en une multitude de royaumes. Devant sa lentille magique, Nathan ne put s'empêcher de s'émerveiller de voir des centaines de milliers d'hommes avancer en pensant qu'ils combattaient encore au nom de Kourgan. Comment aurait-il pu deviner que tant de siècles s'étaient écoulés? Mais Kourgan ne comptait pas vraiment.
Jadis comme aujourd'hui, la véritable menace, c'est Outros. Il est en face de nous et c'est lui que nous devons craindre.
Les premiers rangs, quelque peu désorganisés, se mirent à courir en poussant un terrible cri de guerre amplifié par leur poitrine encore partiellement pétrifiée. Un ouragan déferlait sur Ildakar. 15 siècles plus tôt, des tranchées au fond tapissées de pics et de pierres pointues défendaient le mur d'enceinte. Au fil du temps, elles avaient été comblées car le peuple d'Ildakar s'en fichait comme d'une guigne.
Aujourd'hui, ils payaient les pots cassés puisqu'aucun obstacle ne s'étendait entre les assaillants et leur objectif.
« Qu'allons-nous faire ?»
demanda Bannon, regard rivé sur la horde de guerriers.
« On verra bien assez tôt, » marmonna Nathan.
Au pied de la muraille, les hommes du premier rang tapaient déjà du poing sur la pierre en rugissant de haine. Très vite, ils s'écartèrent pour passer le relais aux soldats qui les suivaient. Ensuite, ce fut le tour du troisième rang. Partout dans Ildakar, l'angoissant roulement se répercuta comme un glas.
« Le mur d'enceinte résistera, »
assura Lila. Un vœu pieux, en réalité.
« Il résistera pour l'instant, » ajouta mentalement Nathan. « Pour l'instant. »